Voici la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est que la grâce, la miséricorde et la paix de Dieu vous sont données à vous en particulier, quelle que soit votre foi ou votre absence de foi, quelles que soient vos convictions ou vos doutes, Dieu vous bénit et vous accompagne avec tendresse. Merci d'être là ce matin. Ça nous permet de faire corps pour célébrer notre Dieu et nous ouvrir ensemble à toutes les bénédictions qu'il désire nous apporter. Et puis ça nous permet de chanter ensemble notre louange avec le psaume 84, c'est le numéro 40 dans notre psautier, « Roi des rois, éternel mon Dieu, dans ta maison je suis heureux ». En Christ, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru, nous dit l'apôtre Jean. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui éternellement. Alors si je dis cela, l'amour de Dieu qui est premier, c'est pour accueillir avec joie Hélène, Or et Romain qui sont parmi nous. Nous les avons vus déjà plusieurs fois au culte ici, même s'ils viennent d'Annecy. Ce couple est extraordinaire. Le signe qu'un couple est un vrai couple, c'est quand les deux époux constatent dans leur existence de véritables fruits de vie. Et c'est le cas pour vous, manifestement, puisque c'est le fruit de vos discussions ensemble que vous demandiez aujourd'hui le baptême tous les deux. C'est le fruit de discussions nombreuses entre vous deux au-delà de la gestion de la vie quotidienne, de vous poser des questions plus profondes et essentielles, et en particulier cette question de Dieu et de sa place comme une source dans nos vies. Hélène Or et Romain, vous avez choisi d'être baptisés ce matin, ici, dans cette maison, comme une pierre blanche sur le chemin de votre vie. Nous nous réjouissons pour vous parce que la foi est une ouverture à une fantastique source de vie. Et nous nous réjouissons aussi pour nous, à vrai dire, parce que c'est tellement vivifiant, tellement profond de recevoir le témoignage de deux vraies personnes adultes qui choisissent délibérément de s'inscrire dans cette démarche, de mettre Dieu dans leur vie. Votre baptême vous rappellera l'amour particulier de Dieu pour vous et sa joie de vous voir vivre en ce monde et d'apporter à ce monde votre part de lumière indispensable. C'est pour nous une joie de vivre avec vous et d'entendre vos paroles que vous nous offrirez tout à l'heure. Alors, grand bienvenue, Hélène Or et Romain. Je vous donne rendez-vous près du baptistère. Alors, je propose qu'on commence par Hélène Or, parce que bon, c'est une petite galanterie, c'est quand même pas mal. Hélène Or, je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, merci pour la personne qu'est Hélène Or. Selon ta promesse, tu envoies ton esprit de lumière et de vie sur Hélène Or. Sur sa personne entière, corps, intelligence, âme, sur son développement et son action en ce monde. Grâce te soit rendue, ô notre Dieu, pour tous tes dons. Romain, je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, merci pour la personne qu'est Romain. Selon ta promesse, tu envoies ton esprit de lumière et de vie sur lui. Sur sa personne entière, son corps, son âme, son intelligence, son développement et sur son action en ce monde. Grâce te soit rendue, ô notre Dieu, pour tous tes dons. Amen. Vous avez vos paroles ? Hélène Or, vous avez toujours été sensible à Dieu depuis toute petite. Vous avez été élevée dans une famille œcuménique avec un père anglican et une mère catholique. Cela fait que c'est l'essentiel qui a pris pour vous la première place. Et c'est à cet essentiel, au-delà de toutes les églises, que vous inscrivez aujourd'hui votre centre de vie. En effet, le baptême est un baptême avant tout chrétien. Dans une église protestante, mais c'est d'abord un baptême chrétien. Et vous voilà ce matin baptisé, membre de cette famille des chrétiens au-delà des générations, des chapelles particulières, au-delà des horizons, des espaces, des pays. Et c'est pour nous une grande joie d'entendre ce que vous avez à nous dire pour que nous vous connaissions mieux et que nous bénéficions de votre parole. Merci.
Bonjour à tous. Alors, le mot qui me vient spontanément quand je pense à Dieu, c'est confiance. Dans la vie, il arrive souvent d'avoir des doutes, de ne pas toujours savoir où l'on va. Mais lorsque l'on choisit d'intégrer Dieu dans sa vie, lorsque l'on marche dans la foi, on avance le cœur plus léger. On ressent cette paix intérieure, cette conviction profonde que, quoi qu'il arrive, tout ira bien, parce que Dieu est là, à nos côtés. Ce passage de Jérémie illustre très bien cela. « Béni l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit pas la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. » Le deuxième mot qui m'inspire, c'est gratitude. Car Dieu est amour, il ne juge pas, il accueille, il est bonté, lumière et espérance. Toutes les belles choses de la vie portent la trace de sa présence. Et je sais que je n'aurai jamais assez de prières pour le remercier de tout ce qu'il nous offre. Pour moi, le baptême est un pas de plus vers lui. C'est une manière de dire devant tous que je choisis de marcher avec Dieu, de lui rendre grâce, de revêtir le Christ, comme le dit ce passage de la lettre aux Galates. Car tous, vous êtes, par la foi, fils de Dieu, en Jésus-Christ. Oui, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. C'est donc un jour très spécial pour moi. Je suis profondément heureuse de vivre ce moment au sein de cette église ouverte, bienveillante et accueillante. Et merci du fond du cœur de m'avoir accompagnée dans cette belle étape de ma vie de foi.
Grand merci, Hélène Orr. Dieu vous bénit et vous accompagne selon ses promesses. C'est une certitude. La joie de l'Éternel sera votre force. Merci pour ce que vous êtes et ces paroles si profondes et sincères. Alors Romain, lui, c'est votre grand-père maternel, si j'ai bien compris, avec sa foi rayonnante, qui a beaucoup compté sur votre chemin. Donc je parle souvent du rayonnement, effectivement, des grands-parents dans le cheminement des petits-enfants. Et c'est vrai que c'est un magnifique cadeau. Alors ensuite, c'est en vous rencontrant avec Hélène Orr que cela nourrit, enrichit votre démarche, votre questionnement à tous les deux. Et ça, je trouve ça aussi un témoignage particulièrement fort et inspirant. Alors aujourd'hui, vous avez choisi de demander le baptême dans l'Église universelle, finalement. Et pour nous, c'est un honneur et une joie que ce soit parmi nous. Alors merci pour ce que vous avez préparé comme nourriture pour nous ce matin. Merci.
Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors tout d'abord, aujourd'hui est un jour particulier pour moi. C'est le jour de mon baptême. Je vis cela comme une véritable renaissance. Renaissance, oui, car aujourd'hui, j'entre pleinement dans la communauté chrétienne en me plaçant auprès du Christ. C'est un engagement profond, celui de le suivre, de marcher dans ses pas et de m'efforcer chaque jour d'être un homme meilleur. La Bible nous dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 6, « Ignorez-vous que nous tous, baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême, en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, nous menions nous aussi une vie nouvelle. » Ce passage me touche particulièrement, car il exprime parfaitement ce que je ressens aujourd'hui. Par le baptême, je laisse derrière moi l'ancien pour renaître à une vie nouvelle, guidée par la foi, par l'amour de Dieu et par l'espérance que donne le Christ. Me placer près du Christ, cela signifie pour moi me savoir sous son regard bienveillant. Il veille sur moi, éclaire mes choix et m'aide à avancer, même lorsque cela est difficile. Dans l'Évangile selon saint Jean au chapitre 8, Jésus dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. » Ces mots me rappellent que je dois garder les yeux tournés vers lui. Sa lumière me guide. Elle m'aide à marcher droit, à garder confiance. Avoir la foi, ressentir la présence de Dieu en soi est quelque chose d'indescriptible. C'est une force, une paix, une confiance que rien d'autre ne peut donner. Aujourd'hui, je veux lui dire merci. Merci pour tout ce qu'il a fait pour moi, pour sa patience, pour son pardon. Je sais que Dieu est amour, qu'il nous aime sincèrement et qu'il veut pour chacun de nous la paix et la lumière. Alors en ce jour de mon baptême, je choisis de marcher avec lui, de laisser sa lumière éclairer ma vie et de témoigner de son amour autour de moi. Et un grand merci au pasteur Marc Pernaud pour son accompagnement.
Grand merci Romain, c'est vous qui êtes lumineux et qui apportez autour de vous une lumière qui embellit la vie. Dieu vous bénit et vous accompagne sur le chemin de votre vie. Merci tous les deux pour ce que vous êtes et ce que vous nous avez apporté. Et puis pour leur souhaiter le meilleur, eh bien, je vous propose de prendre le cantique 357. Grand Dieu, nous te bénissons. Merci. Grand Dieu, nous te bénissons. Pour la prédication de ce jour, j'ai reçu une commande spéciale de la part d'Hélène Or et de Romain. Nous poser la question essentielle, à mon avis, de l'existence du mal dans le monde et ce que fait Dieu face à ce mal. Déjà 3 siècles avant Jésus-Christ, Épicure posait cette question de la théodicée, c'est le nom technique en philosophie, pour cette question de l'existence du mal, avec ce paradoxe qui s'appelle donc le paradoxe d'Épicure. Si Dieu est tout-puissant, s'il est conscient de ce qu'il se passe sur terre, et s'il est bon, alors le mal ne devrait pas exister. Et c'est juste comme démonstration. Nous faut donc évoluer dans notre théologie, car cela nous touche profondément, ça touche notre foi, ça touche nos peines, ça touche notre angoisse, ça touche notre action dans le monde et ça touche notre prière. Alors répondre à ce paradoxe, comme certains théologiens, que c'est le grand mystère de Dieu, éclore ainsi la question, c'est une injure à ce que c'est que la foi. Comme s'il fallait renoncer à toute cohérence de pensée pour avoir foi en Dieu. Bien sûr que non. La Bible a heureusement bien plus de ressources que cela, par exemple dans ce passage du livre d'Ésaïe que je vous ai choisi pour ce matin. Ésaïe 42. Voici mon serviteur que je soutiens. Voici mon élu en qui mon âme se complaît. C'est de vous qu'il parle. J'ai mis mon esprit sur lui. Il révélera le droit aux nations. Il ne criera pas. Il n'élèvera pas la voix et ne fera pas de scandale dans les rues. Il ne brisera pas le roseau qui ploie. Il n'éteindra pas la mèche qui fume. Il révélera le droit selon la fidélité. Et lui, il ne faiblira pas, il ne ploiera pas jusqu'à ce qu'il ait établi de l'équité sur la terre et que les îles, les extrémités de la terre, attendent la visée, la Torah. Ainsi parle Dieu l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les déploie, qui étend la terre et ses productions, qui donne la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui la parcourent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé, toi, pour la justice, et je te prends par la main, je te protège, je t'établis pour une alliance du peuple, pour la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison les captifs et de leur cachot les habitants des ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux statues. Les premiers éléments sont déjà là. Il en vient de nouveau, moi, je vous les annonce, avant même qu'ils ne germent. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Ô Éternel, par l'étude de nos Écritures anciennes, ouvre-nous maintenant, effectivement, à ton souffle de vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ésaïe évoque la première cause de mal dans le monde et son l'action de Dieu pour y répondre au verset 5 de ce chapitre que je vous ai lu. Ainsi parle Dieu, l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les déploie, qui étend la terre et ses productions, qui donne la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui la parcourent. Alors dans ce passage, Dieu est appelé ici à la fois Dieu, El en hébreu, et l'Éternel, Yahou. Ce qu'il apporte est donc à la fois un acte puissant de création avec le Dieu fort, El, et un acte de compassion venant au secours de ceux qui souffrent, de la création tout entière, avec ce nom Yahvé. Mais dans cette traduction que je vous ai lue, il y a une erreur grave. Elle parle de Dieu qui a créé les cieux au passé. Or, dans l'hébreu du texte, le verbe créer n'est pas à l'accompli, il est au participe présent. Et donc Dieu est créant les cieux, sans cesse en train de créer et de se rendre présent dans le monde. Il est encore sans cesse en train d'étaler la terre, ce qui signifie créer un espace de vie, un espace où la vie est belle, possible. Il est encore en train de donner la respiration et le mouvement, faisant de nous des êtres vivants, capables d'évoluer. Il est toujours en train, chaque jour, de nous donner à tous son souffle, son Esprit Saint, comme le dit la Pentecôte. Tout cela, Dieu le fait donc dans le présent, sans cesse. Il s'agit donc d'une création continue. Et cela change tout de dire que la création est continue et non pas simplement une fois dans le passé, comme le pensait par exemple Voltaire avec son dieu horloger qui a créé le monde comme une pendule et puis ensuite qui se contente de la regarder fonctionner sans interférer. Ésaïe, et il n'est pas le seul dans la Bible, loin de là, nous dit que Dieu est sans cesse à l'œuvre pour créer et pour sauver. La création est encore en cours, cela signifie qu'elle est inachevée. Il reste donc dans la création, dans le monde, une part de chaos sur lequel Dieu continue sans cesse à travailler par sa puissance afin de créer du bien à la place du chaos. Le chaos est ainsi la première cause du mal dans le monde. Il correspond effectivement à un certain nombre de souffrances terribles que nous observons dans le monde, dans nos vies. Ça correspond à toutes les catastrophes naturelles, par exemple, à la disparition des dinosaures, jusqu'à la maladie et la mort du nourrisson, ce qui est injustifiable, par exemple. Alors ce n'est pas la volonté de Dieu, car Dieu est et restera toujours source de vie et non de chaos. Ce n'est pas non plus que Dieu aurait besoin de nos prières pour le tenir au courant de ce qui arrive, ou bien pour le motiver d'agir enfin. Non, chaque fois qu'un de ces drames arrive, c'est que Dieu n'a pas pu l'empêcher dans l'immédiat. Mais il y travaille, nous dit Ésaïe, il y travaille sans cesse. Il est à 100% avec celui qui souffre pour faire avancer sa situation et pour domestiquer un peu plus le chaos qui règne et qui fait souffrir et qui fait mourir. Et Dieu nous embauche dans ce chantier. Dieu est source d'évolution, il ne peut pas instantanément, en un claquement de doigts, achever l'ensemble de la création du monde entièrement. Il y travaille, dans le temps. Père, comme le dit Jésus, que ta volonté soit faite. Oui, nous savons que tu es innocent de ces souffrances, que ce n'est pas ta volonté, ces souffrances, et que tu es la solution. Me voici, que puis-je faire ? Telle est finalement cette prière que Jésus nous invite à dire, à vivre. La création dans les premières pages de la Genèse, ce n'est donc pas une histoire passée, c'est plutôt un programme en cours. Elle parle de Dieu comme entièrement bon, comme source de bonté, de belles choses, comme entièrement créateur, totalement innocent du moindre mal qui pourrait arriver dans le monde, bien sûr, puisque Dieu est amour. Dans cette création, selon la Genèse, il n'y a pas non plus de Dieu méchant, source de mal, comme le pensent les religions dualistes en Mésopotamie antique, mais peut-être encore maintenant dans certains milieux. Non, il n'y a que Dieu. Comme puissance transcendante, il agit par étapes, comme dit ici dans le verset 9 de ce chapitre, où Ésaïe dit qu'il y a déjà eu des premières étapes, que d'autres sont en préparation et qu'elles sont bientôt en germe. Il n'y a donc que Dieu qui est créateur comme ça, étape par étape, et il y a le chaos, ce qu'il reste du chaos primordial, le désordre brut, qui est neutre finalement, n'ayant pas de sens, pas de projet ni de volonté. Ce chaos provoque effectivement du mal, de la souffrance et de la mort, malheureusement. Inutile de chercher un responsable derrière ces catastrophes, inutile de chercher une logique. Pourquoi est-ce que ça m'arrive ? Non, il n'y en a pas de raison. Et Dieu est à 100% notre allié face à ces coups du sort qui frappent aveuglément, injustement. Dans ce monde, il y a donc le chaos et Dieu qui crée un monde beau, en train de créer un monde plus beau. Et le chaos et Dieu ne sont pas du tout symétriques. Comme le bien et le mal ne sont pas symétriques dans la vie, en réalité. C'est ce que remarque saint Augustin dans son débat avec les manichéens, qui, eux, étaient dualistes. Saint Augustin explique que le mal n'est pas symétrique avec le bien. Le mal est en réalité un manque de bien. Il explique « Les ténèbres, l'obscurité, ne sont quelque chose que par l'absence de lumière. » Elles n'ont pas de réalité en elles-mêmes. Et il a parfaitement raison. Il existe des particules de lumière, ce sont les photons. Bon, bien sûr, saint Augustin ne le savait pas. Mais il n'existe pas de particules d'obscurité. L'obscurité, c'est simplement quand il n'y a pas de lumière, pas de photons. L'obscurité est facile, elle est normale. Elle n'a pas besoin d'être créée, pas besoin de cause. Il suffit qu'il n'y ait rien. Et c'est la même chose pour le chaos. La science nous dit que spontanément, si personne n'intervient dans un système, tout va évoluer dans le sens d'un chaos croissant. C'est ce qu'on appelle le deuxième principe de la thermodynamique. Mais tout propriétaire d'une maison le sait bien. Sans entretien, elle va se dégrader. Un peu ici, un peu là, et au bout d'un certain temps, 2 ans, 20 ans, 200 ans ou 2000 ans, il ne restera que des ruines de cette maison, et c'est donc naturel. La pente va vers le chaos, il suffit que personne ne s'en occupe. L'inverse demande de multiples efforts. Même une toute petite chaumière ne se construit que rarement toute seule. Ça demande une énergie, ça demande un projet, ça demande du savoir-faire, ça demande de mouiller la chemise. Cela fait que l'existence du chaos et l'existence du mal qu'il provoque n'ont pas besoin de cause pour exister. Il n'y a pas de problème, c'est naturel. Par contre, le vrai miracle, c'est l'existence du bien. Il est toujours improbable. Il est toujours stupéfiant, fragile. Le bien, le bon et le beau ne peuvent exister que par une action volontaire, construite, délibérée et bonne, allant à contre-courant du principe de chaos croissant. Vous êtes donc, vous, individuellement, personnellement, le miracle des miracles. Avec votre personnalité, avec votre capacité à aimer, votre capacité à créer des choses nouvelles. C'est un miracle, vous êtes un miracle, surgi du néant. C'est pourquoi, depuis Hésiode et sa théogonie, jusqu'à Leibniz et Heidegger, les philosophes se posent cette question bien plus difficile que celle de l'existence du mal. Pourquoi y a-t-il quelque chose en ce monde plutôt que rien ? Ou plutôt, pourquoi est-ce qu'il y a du bien, du bonheur et de la vie plutôt que le seul chaos dans l'univers ? on peut appeler Dieu, ce qui fait que, déjà, ce miracle a eu lieu. C'est donc la première source de mal dans le monde, le chaos, et Dieu sans cesse en train de créer, de poursuivre sa création. Au verset suivant, au verset 6, Ésaïe évoque un appel que Dieu nous lance. Cet appel révèle une seconde source de mal dans le monde et une seconde action transcendante de Dieu, de l'Éternel, dans ce monde. « Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour la justice, pour une alliance du peuple, pour la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour libérer les prisonniers des ténèbres. » Le mal n'est plus ici la conséquence du chaos. Le mal, c'est ici l'injustice. Le mal, c'est le manque d'alliance, c'est-à-dire le manque de relations fidèles entre nous, les humains, entre nous et le monde, entre nous et Dieu. Le mal, c'est ici un manque de discernement des personnes, faisant qu'elles sont menées par le bout du nez sans même ouvrir les yeux. Ces mots, cette seconde source de mal, c'est dû à l'humain. Nous sommes la seconde source de mal en ce monde. Il nous faut bien le reconnaître pour avancer. En effet, l'humain, il est créé par Dieu à son image, nous dit encore ce chapitre incroyable qu'est le premier chapitre de la Bible. Avec donc une capacité à créer, avec du libre arbitre, l'humain a donc le pouvoir de faire le bien comme de faire le mal avec cette capacité à créer qu'il a. Alors je disais que dans la théologie de la Genèse, il n'y a pas de Dieu méchant, il n'y a pas de diable à l'œuvre pour faire du mal. Mais le voilà, avec cette seconde source du mal qu'est l'humain, le voilà que le diable montre le bout de sa queue et de ses cornes. L'humain, oui, est parfois diabolique. C'est-à-dire qu'il peut être source d'augmentation du chaos autour de lui et dans sa propre existence. Il peut être source de division entre nous, division avec Dieu, rupture avec Dieu, et puis division en nous-mêmes, ce qui est source de souffrance et de mort dans ce monde. C'est donc là la seconde grande source de mal dans le monde, la folie ou la faiblesse de l'humain. Alors comment est-ce que Dieu réagit ? Il réagit forcément positivement, avec amour, avec créativité, avec cette volonté de salut, bien sûr, qui est annoncée dans ce chapitre. Eh bien, comment il fait ? Il appelle sans cesse l'humain de toutes ses forces pour qu'il soit source de bien et non de chaos. Il nous donne son souffle, le Saint-Esprit, et la capacité à évoluer en ce monde, à changer, à progresser, à s'élever. Il nous appelle par des prophètes et il nous appelle par le Christ. Il nous appelle par la prière, comme nous le dit Jésus-Christ dans son Notre Père. Dieu nous appelle et nous rend capables du bien. C'est son action, là encore, continue chaque jour envers chacune et chacun d'entre nous en ce monde. Il nous prend par la main, nous dit Ésaïe, comme une mère qui apprend à son enfant à marcher. Il nous protège de nous-mêmes et des autres. Il nous établit comme capables de grandes choses, de responsabilités. Et dans la mesure où nous le voulons bien, oui, nous ferons moins de mal en ce monde. Et nous pourrons même aider Dieu à domestiquer le chaos. Car en effet, nous avons des moyens que Dieu n'a pas pour agir dans l'instant, en ce monde, face au chaos qui nous frappe aveuglément. Dieu est une source d'évolution dans le monde sur un temps long. Il n'a pas de main, par exemple, pour relever notre voisine de palier âgée qui est tombée. C'est pourquoi Dieu nous donne son appel et son amour, pour que nous nous sentions concernés, que nous ayons cette vigilance, que nous ayons la joie ainsi d'avoir participé au bien, aussi peu que ce soit. Il nous convient donc, je pense, de distinguer le mal absurde qu'est le chaos du mal méchant de l'humain, car ils n'ont pas le même statut dans notre monde. Ils n'ont pas les mêmes causes. Tous les deux nous appellent à agir, bien sûr, avec Dieu contre le mal et la souffrance qui sont arrivés, mais contre le second mal, celui qui est dû à l'humain. Au-delà du secours direct à la personne qui souffre, Dieu nous appelle à un travail d'éducation que développe ici Ésaïe, un travail spirituel, un travail d'alliance, un travail de discernement, d'intelligence, de mise en lumière, un travail de la foi, et puis un travail d'émancipation pour libérer les opprimés et aussi libérer le meilleur de nous-mêmes. Car il n'y a que comme cela, par cette éducation spirituelle et de l'intelligence, du discernement, que nous serons moins source de chaos, mais qu'au contraire, nous serons de plus en plus, avec Dieu, source de ce miracle absolument stupéfiant, qu'est le bien, qu'est la vie, qu'est l'amour, qu'est la lumière, qu'est l'alliance et qu'est la libération d'une créature. Amen.
Recevons avec joie et gratitude le récit du dernier repas que Jésus prit avec ses disciples, selon l'évangile de Matthieu. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et, après avoir dit la bénédiction, il rompit et le donna aux disciples en disant : Prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite la coupe et, après avoir rendu grâce, il leur donna en disant : Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour la multitude, pour le pardon des péchés. Prions. Veuille, par l'action de ton esprit, nous donner d'être nourris des paroles et des actes de ton Fils, d'approfondir encore notre communion avec toi, de recevoir ta présence, ta consolation et ta paix, et saisir notre vocation particulière au service d'une personne que tu nous appelles à aider, à réconforter, à bénir, à libérer. Ton Fils Jésus-Christ nous a donné cette confiance en toi qui nous permet de te prier comme un Père qui nous aime et qui compte sur nous. Nous rassemblons notre prière dans celle que le Seigneur nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Et je vous propose de nous unir dans le chant du cantique 343. Ô Jésus, tu nous appelles à former un même corps, à rester toujours fidèles, tous unis dans nos efforts. 343.
Thank you.
Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été rompu pour nous.
Et la coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de Jésus-Christ, le sang de la nouvelle alliance qui a été répandu pour nous.
Seigneur, tu as dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. C'est en signe de cette promesse que quiconque le désire peut s'approcher, prendre le pain et boire une coupe, en signe de son désir de prendre et d'assimiler tout ce que Dieu nous donne en Jésus-Christ comme salut. Venez, nous dit Jésus-Christ, venez, car tout est prêt. Alors je vous propose de vous avancer par l'allée centrale, de prendre le pain et de boire une coupe. Nous rendons grâce à Dieu. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout en nous bénisse ton saint nom. C'est toi qui pardonnes toutes nos fautes. C'est toi qui guéris toutes nos infirmités. C'est toi qui arraches notre vie à la tombe. C'est toi qui nous couronnes de bonté et de miséricorde. Oui, nous bénirons l'Éternel. Que tout en nous bénisse son saint nom. Amen. Un grand, grand merci à vous tous d'avoir constitué cette assemblée. Vous êtes vraiment une bénédiction. Un grand merci aux conseillers de paroisse. Ils accomplissent un magnifique travail, fidèle, dévoué, jour après jour, semaine après semaine. Merci beaucoup à eux. Merci à Marcello Giannini à l'orgue pour ses pièces de Bach toujours si inspirantes et pour ce soutien, pour chanter les cantiques. Maintenant, je vous propose de prendre un cantique de Pentecôte. C'est le 328, vous voyez, c'est le temps de Pentecôte qui arrive, avec ce don de l'Esprit qui nous est promis à tous et à toutes, qui fait de nous vraiment des enfants de Dieu, à son image, actifs, inspirants. Et puis, pendant le chant de ce cantique, ce sera notre offrande qui sera recueillie, qui est aussi une façon de dire que l'Esprit est à l'œuvre en nous et nous donne voilà, un geste de solidarité, un geste qui permet à l'Église d'annoncer dans ce monde qui en a tant besoin la foi, l'Esprit et l'amour que le Christ a répandu dans nos vies. Donc le 328, dont je vous propose de chanter les 5 premières strophes. 328, le Veni Creator.
Saint-Esprit, visite-nous.
Et nous recevons la bénédiction de Dieu, bénédiction qui est donnée au singulier individuellement sur chaque personne selon les paroles données à Moïse. L'Éternel te bénit, toi, et il t'accompagne, il te garde. L'Éternel fait resplendir sur toi sa lumière et il t'accorde sa grâce. L'Éternel lève son visage vers toi et te donne sa paix. Alors oui, sois béni par toute âme qui respire. Ô Dieu, source de vie. Amen.